Vous écoutez RTL.
De l'amour et du rock and roll.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Elvis Presley est mort il y a 40 ans, la nuit du 15 au 16 août 1977. Le King avait seulement 42 ans. On écoute la face B de son destin avec le journaliste Patrick Mahé. Bonjour.
Bonjour Sidonie.
Vous allez bien?
Vous chantez bien d'ailleurs.
Salut Patrick, ça va bien?
C'est un bon début.
Vas-y Thomas. On commence par la fin, par une légende pas très glorieuse d'ailleurs. On dit souvent que Elvis Presley est mort sur le trône. Je me comprends, sur ses toilettes. Est-ce que c'est vrai?
Alors ça, c'est vraiment une affaire de bobo new-yorkais. typique. Vous savez, Elvis était très critiqué par ces critiques-là, justement, de la presse de l'Est, de la côte Est, de New York en particulier. Il les a souvent désavoués par ses propres succès. Et évidemment, associer le King au trône, c'était facile. Ben, ils l'ont fait. Ils l'ont pas raté. Ça s'est pas du tout passé comme ça, d'ailleurs.
Vous allez nous raconter comment il est mort ce soir-là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, je vais vous, non pas avec plaisir d'ailleurs, parce que c'est quand même une histoire triste, mais je vais vous le raconter dans sa vérité. En fait, ce soir-là, on est en août 77, on a la nuit du 15 au 16 août, à 23h, il vit à l'envers, des horaires de tout le monde, donc à 23h, il a rendez-vous chez son dentiste pour soigner une carie, parce qu'il part le lendemain en tournée vers Boston. Et quand il revient un peu plus tard, vers 1h du matin, il y a un fan qui prend, alors pas un selfie, ça n'existait pas, mais qui prend une petite photo de lui. C'est la dernière fois qu'on aura une photo de lui. Il est au volant de sa voiture. Ginger Alden, sa compagne, est à sa droite. Il est en survêtement bleu. Et il va tout de suite rentrer chez lui, se mettre au piano, enchaîner quelques notes de musique, Unchained Melody, je crois, parler aux gens qui sont avec lui de son programme, de la tournée qui démarre le lendemain. Il va même dire, je veux qu'on mette dans mon programme, dans mon répertoire, Hey Jude des Beatles.
Donc il est en forme, il est en belle santé?
Il est en bonne santé, et d'autant plus que, à 3h35 du matin, ou 40, il met au défi son cousin, Billy Smith, d'aller faire une partie de racquetball. C'est un peu le squash, quoi.
Ouais.
Donc il va jouer au squash à 4h du matin, ce qui est un sport quand même un peu difficile pour le cœur.
C'est violent, oui.
Très violent. Et puis après, il va rentrer. Ginger Alden et la femme de Billy Smith vont jouer aussi une partie. Lui, il va se remettre au piano. Il va parler à tous ceux qui l'entourent du succès à venir de la tournée qui démarre. À 8h du matin, Delta, sa tante, arrive avec un petit déjeuner. Il prend le journal sous le bras, le Memphis Scimitar. Il monte dans sa chambre au deuxième étage. Ginger Alden lui prépare sa trousse aux médicaments, puisque le docteur Nikopoulos lui a prescrit 19 médicaments par jour.
Pour soigner quoi ?
Des tranquillisants.
Ah oui.
Des médicaments pour se réveiller, des médicaments pour être en forme. Il s'agit bien de médicaments au sens américain du terme, drugs, c'est-à-dire médicaments et non pas drogue.
Donc il est surmédicalisé, mais il meurt de quoi? Il meurt alors, des conséquences de son effort sportif?
Alors non, il meurt. D'abord, il est fatigué. Il est quand même à bout de souffle et à bout de course après de multiples tournées. Ça, on y viendra peut-être tout à l'heure.
Ouais.
Et il prend un livre. Il prend un bouquin, Ginger Alden va se coucher, il va dans sa salle de bain qui est très grande, s'installe dans un fauteuil qui est un fauteuil de barbier.
Donc une sorte de trône, mais pas des cabinets.
Voilà, ça n'a rien à voir. Il a un livre à la main qui est un livre de spiritualité sur le mystère du Saint-Suaire à Turin, un truc incroyable quand même. Et à 14h, quand Ginger Alden se réveille, elle voit qu'il n'est pas à côté de lui, elle le découvre inanimé, il gît dans sa salle de bain, il est tombé de ce fauteuil de barbier, c'est trop tard. Elle essaie de le réveiller, elle alerte tout le monde, et puis après l'ambulance arrive.
Il a fait une crise cardiaque en fait.
Il fait une crise cardiaque, voilà. Et à 15h, alors après on l'amène, on le conduit à l'hôpital, le Baptiste Hospital, sous un nom d'emprunt, Mr. John Doe, qui habite au 3700 et 64 Elvis Presley Boulevard.
John Doe, c'est le nom qu'on donne à...
C'est Monsieur Tout-le-Monde.
À Monsieur Tout-le-Monde.
À Monsieur Tout-le-Monde, voilà. On dit que c'est un artiste de variété indépendant. Et à 15h35, on fait le diagnostic. Le verdict tombe, il est mort.
Pourquoi des complotistes, Patrick Mahé, pensent qu'il n'est pas mort?
Oh, bah ça, alors les complotistes disent aussi qu'on n'est pas allé sur la Lune.
Parce que c'est le seul artiste qu'on ne veut pas opérer. Pas enterrer. Elvis Presley vit forcément sur une île déserte. Oui, il a été enlevé par des extraterrestres, on a tout entendu.
Oui, bien entendu, oui, mais c'est pareil pour un Incola d'ailleurs.
Si on peut mélanger un peu d'extraterrestres.
On est dans la même époque, puisque c'est 77 et un Incola c'est 78. Ouais. Bah, c'est pareil, il vit aussi sur une île déserte ou bien son bateau a été enlevé dans le triangle des Bermudes.
Patrick Mahé, 100 jours avec Elvis, c'est le titre de votre livre publié aux éditions du Cherche Midi. Depuis la mort d'Elvis, comment les fans célèbrent sa mémoire ? Chaque année, il y a rendez-vous dans sa propriété ou devant sa propriété.
Il y a pas mal de fan clubs dans le monde entier qui marchent très bien, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Japon et en France. Et en France, il y en a un qui est très actif, qui est présidé par Jean-Marie Pouzinck et qui cet été encore, 40 ans après la disparition d'Elvis, a emmené 220 fans à Memphis et à Graceland. 220, c'est quand même impressionnant, pour un séjour d'environ 10 jours.
Les curieux, je suis sûr que vous aimez, que vous connaissez ça. Dans un instant, on vous raconte comment ce tube d'Elvis Presley est né, bah vous verrez, un peu par hasard. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. A little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. That's all right, mama, just any way you do, that's all right. Jusqu'à 15h sur RTL.
Le King est mort il y a 40 ans, sa vie nous fascine, sa musique nous donne envie de danser, ça nous donne des frissons, là simplement le fait d'entendre ses tubes. On est avec le journaliste Patrick Mahé et on écoute donc That's Alright Mama, c'est le premier tube d'Elvis, comment il est né ?
C'est le premier tube d'Elvis, effectivement. Il est né par hasard, en fait. Elvis s'est fait repérer par Marion Keisker, qui est la secrétaire du studio Memphis Recording Service, les studios Sun à Memphis, 706 Union Avenue, si vous y allez. Et il est repéré pour son physique, par sa belle gueule, et par sa voix, qui est très différente des autres. Il a des intonations. Il fait man à la fin de ses interprétations. Il est rentré uniquement pour faire un disque pour sa mère. Il a une dévotion pour sa mère, ouais, qui s'appelle My Happiness.
Donc on est en 54. Là, il travaille sur un autre morceau, c'est ça et...
Mais d'abord il rentre pour sa mère, en fait. Hein. My Happiness sera le titre fétiche. C'est pour d'ailleurs que le fan club en France s'appelle Elvis My Happiness. C'est la référence. Et donc, elle le repère. Et un peu plus tard, les musiciens de studio qui sont là, notamment Scotty Moore, le guitariste au picking guitar très connu, et Bill Black, le contrebassiste, sont un peu en manque de chanteurs à un moment. Mm-hmm. Je crois que Scotty Moore est en rupture avec Poindexter, d'ailleurs, le groupe qu'il a un peu largué. Et il cherche un chanteur. Or, Marion Keisker dit, mais il y en a un. Il y a un mois, il était là, ou deux mois. J'ai son adresse, Elvis Presley. Et Sam Phillips, qui est le patron du studio, va avoir le coup de génie, d'abord, de mettre en relation Elvis, tout jeune débutant, mais qui parle même pas de débutant, avec Scotty Moore, pour qu'il soit adoubé par les musiciens.
Mais la première chose qu'ils enregistrent quand même avec Elvis Presley, le producteur, il n'est pas super content, il trouve que c'est un peu fade.
Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont en studio, ouais, et les musiciens sont moyennement contents de voir arriver un inconnu. On leur propose un inconnu. Donc, ouais, comme des musiciens de studio, ils font un peu la gueule. Mm. Pas tellement Scotty Moore, dont la femme a dit, oh, ce mec, il a une gueule formidable à faire tomber les filles, la fameuse Scotty Moore. Pas bête, hein, elle avait quand même le sens de la vision. Mais Bill Black, plus âgé, il est sur sa contrebasse, il fait un peu la gueule, et puis ils font des morceaux. Ça marche moyennement entre eux. Et soudain, à un moment, dans un tempo inattendu, Elvis se met à interpréter spontanément « That's alright ».
Qu'est-ce que ça a de neuf par rapport au son de l'époque de 1954
c'est que cette chanson n'est pas une nouveauté. Elle est de 1942. Elle a été écrite par un bluesman qui s'appelle Arthur Crudup.
Donc c'est la façon de chanter d'Elvis qui apporte quelque chose.
Complètement, elle est oubliée. Ouais. Et Elvis va lui donner un tempo complètement différent, moderne, qui aujourd'hui on dirait qu'il déchirait. Et du coup, les musiciens sont pris de court et Bill Black est obligé de foncer sur sa contrebasse pour accompagner Sam Phillips, malin, derrière le studio, comme nos amis ici, mais branche ses fiches et on a l'enregistrement original de That's Alright Mama.
Ce sera un succès immédiat, Patrick Mahé.
C'est simple, le soir même, Sam Phillips se précipite à la radio de Memphis, tenue par Dewey Phillips, qui est un homonyme, qui n'a rien à voir avec lui. Il lui dit, j'ai un mec, c'est fantastique, faut le passer. Il le passe, Dewey Phillips. Il était tellement obligé, il a tellement d'appels téléphoniques qu'il le passe 7 fois de rang. Le lendemain, les studios Sun reçoivent 5000 commandes.
Et pendant ce temps-là, sa future femme Priscilla Beaulieu écoute ça en rêvant de rencontrer le King. Heartbreak Hotel. Alors on imagine la très jeune Priscilla qui écoute ce morceau de cette idole, de son idole Elvis. Et ils vont se rencontrer tous les deux en 1959. Comment ils se rencontrent? Quelle est la différence d'âge entre les deux aussi?
Ah, il y a quand même une belle différence d'âge parce que Priscilla n'a que 14 ans et demi quand il la rencontre et qu'Elvis débute son service militaire en Allemagne, il a 21 ans. Donc il y a un bon septennat d'écart. Heartbreak Hotel est une histoire très triste que Elvis a inspirée après avoir lu dans un journal à Miami le suicide d'un solitaire dans sa chambre d'hôtel. C'est comme ça qu'est née cette chanson, sur une inspiration d'Elvis. Et la petite Priscilla, qui est à l'époque vit au Texas avec son beau-père, qui est un officier de l'armée américaine, écoute ce genre de chanson avant que son beau-père soit muté en Allemagne. Et c'est donc en Allemagne, pendant qu'Elvis débarque pour son service militaire, qu'il rencontre la toute jeune Priscilla.
C'est le coup de foudre. Ils vont avoir une petite fille assez rapidement. Est-ce que Elvis Presley a eu plusieurs enfants ou une seule
Elvis
enfant?
Elvis Presley a eu un seul enfant, Lisa Marie. Il s'est marié le 1er mai 68 avec Priscilla Presley. Et l'enfant, Lisa Marie, est né 9 mois plus tard, jour pour jour.
Il y a quelques jours, en Grande-Bretagne, il y a le contrat de divorce d'Elvis et Priscilla qui a été vendu, mis aux enchères. Il date de 1972 et on y découvre les raisons du divorce, en quelques mots, entre les deux.
Oui, enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Londres, si j'ose dire. C'est une affaire de commissaire-priseur, surtout, qui ont fait un peu de buzz avec Fox Télé. En fait, on sait exactement que Priscilla est partie parce que Elvis l'avait sanctifiée, finalement, après la naissance de Lisa Marie. Et bon, elle s'en plaignait et elle est partie avec son professeur de karaté.
Sanctifié, ça veut dire qu'il ne la touchait plus.
Voilà,
et que, voilà.
Mais Thomas est forcément dans une intimité de Graceland.
Je dis les mots.
Nous sommes dans l'intimité de Graceland. Bravo. Et donc, voilà, elle est partie avec son professeur de karaté, donc c'était ça l'histoire. Ils se sont séparés sur la Cadillac, machin, les 100 000 dollars de pension, et puis des biens immobiliers à se partager.
Un divorce, quoi.
Et vous racontez cette histoire dans 100 jours avec Elvis, publié aux éditions du Cherche Midi. D'ailleurs, si ça vous dit de gagner ce livre de Patrick Mahé, rendez-vous sur Facebook et sur le compte Twitter de l'émission. Il y a la marche à suivre. C'est tout simple. Saviez-vous sinon qu'Elvis rêvait de rencontrer Brigitte Bardot? Est-ce que la rencontre mythique a eu lieu? Réponse dans un instant.
RTL.
La musique sur RTL, c'est ça. Des tubes.
RTL. Et des standards.
Et tous les week-ends, du live.
On aime la musique sur RTL.
RTL, première radio de France.
Thank you.
RTL.
Well, it's the one for the money. For the joke. You get it ready now.
La curiosité est un vilain défaut.
I got the same old story with them all night peers. There ain't no room around here for a guitar man. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. Jumping like catfish on a pole.
Sidonie Bonnac, Thomas Hugues.
You know he's gone, gone, gone. At a hip shaking King Creole.
Jusqu'à 15h sur RTL.
C'est le nouveau 14-15h sur RTL. Et on est rock. Parfois, on adore les grands destins. Comme celui d'Elvis Presley, mort il y a 40 ans exactement. Patrick Mahé, Elvis Presley. J'ai découvert en lisant votre livre 100 jours avec Elvis, publié au Cherche Midi, il rêvait de rencontrer Brigitte Bardot. À quelle occasion il en parle?
Il en parle lors d'une permission à Paris, il est militaire, et il descend à l'hôtel Prince de Galles où on lui organise une conférence de presse. Et là, il y a une journaliste française toute mignonne, en robe striée printanière.
Qui ça vous a marqué apparemment.
Absolument. Qui s'appelait Micheline Sandrel, son nom doit rester à la postérité de l'histoire du King, qui lui pose une question. Alors Elvis, comment ça se passe, l'Europe, le service militaire et tout? Il dit, mais je ne suis pas venu pour mon service militaire seulement, je suis venu aussi pour rencontrer Brigitte Bardot.
Et alors comment elle réagit, Brigitte Bardot? Elle dit ok, allons-y.
Les journalistes présents à la conférence de presse se précipitent sur le téléphone pour joindre Brigitte Bardot. Oui. Je me souviens, il y avait Paul Giannoli à l'époque pour, je ne sais plus, France Soir, je crois. qui appelle partout Brigitte Bardot, mais elle, elle a d'autres, elle a fait autre chose. C'est l'époque des Dieux écrits à la femme, c'est Vadim, c'est tout ça.
Mais ça aurait pu lui ouvrir le marché américain, c'était pas absurde de faire une photo comme ça.
Disons qu'en Amérique, c'était intéressant parce qu'en fait, Presley, il avait saisi une occasion là, très simple, c'est que le film Les Dieux écrits à la femme, il y avait des conspirations pour le faire interdire en Amérique, notamment sur la côte Est. Et donc c'était pas mal. Disons qu'au niveau du marketing, c'était pas mal. Il était bien conseillé, mais peut-être était-il spontané.
En tout cas, des rendez-vous manqués, il y en a eu quelques-uns dans la vie d'Elvis Presley, et c'est normal aussi, évidemment, mais notamment à cause de son manager. Vous nous présentez le colonel Parker.
Ben oui, parce qu'il était
j'ai
pas
un sacré nom, lui.
Ben, d'abord, il n'était pas colonel, hein, pas plus que moi, pas plus que je suis évêque de Vannes.
Oh, ça suffit, les Bretons.
J'avais
hein.
pourtant l'impression de vous avoir croisé lors d'un office quand j'habitais Vannes.
Non, marqué en changeant le costume.
Ça m'arrive tous les ans à
un costume sombre.
Août, derrière le bagad de Vannes, plein de cornemuses que vous connaissez bien.
Méfiez-vous, Patrick, ça vous irait pas mal. On va utiliser ça sur Twitter, on va vous mettre en photo version archevêque.
Et ce colonel
enfin,
Parker.
Le colonel Parker n'était pas du tout colonel. Il a été fait colonel honoraire par un producteur, un gouverneur, je crois que c'est d'Alabama, après une succession de fêtes foraines, voilà, pour situer le grade de colonel. C'était totalement pipeau et bidon. Et en fait, comme Parker était entré en Amérique dans des conditions controversées, il n'avait pas le droit, il craignait en tout cas, quittant l'Amérique, il ne pourrait pas y revenir. C'est la raison pour laquelle Parker a empêché Elvis de faire une tournée en Europe.
Et de faire un fest-noz. Elvis aurait pu participer à un fest-noz en Bretagne. On l'aurait accueilli.
C'est notre cadeau du jour, Patrick. Alors,
à cause de ce
colonel Parker, il y a aussi l'histoire West Side Story, j'avais du mal à le dire, film mythique dans lequel Elvis aurait pu jouer, c'est ça?
Bah, Elvis était la priorité, la priorité absolue du réalisateur Robert Wise, ouais, pour le rôle de Tony, le patron des Jets, la bande des Jets. Et en fait, Parker va dire non à Robert Wise parce qu'il a d'autres contrats en vue et qu'il a signé des contrats pour des films secondaires, des films B, notamment G.I. Blues à ce moment-là, et il l'empêche de tenir ce rôle. Elvis va l'apprendre plus tard de la bouche même de Rita Moreno, la très sulfureuse, brûlante, portoricaine du film, qui va lui dire quel dommage. Il y avait en plus Natalie Wood dans le film.
Heureusement quand même, il nous a laissé quelques jolis films. Le King, par exemple, en 1958, ce film dont le titre légendaire est Love Me Tender.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Donc Love Me Tender, ce film qui sort en 1956, il a eu beaucoup de succès, il a apporté de la notoriété au King.
Ben c'est simple, Love Me Tender, il y a trois westerns dans la filmographie d'Elvis sur 31 films. Les trois meilleurs films d'Elvis sont les trois westerns. Love Me Tender, Flaming Star et Charo. Charo, c'est déjà l'univers de Sergio Leone, on va dire. Et donc, quand Love Me Tender sort, alors le disque est un triomphe absolu, et il est lancé à New York par la Paramount, et donc le cinéma ouvre à, mettons, 16h, mais dès 7h du matin, il y a des files d'attente partout dans la rue. Love Me Tender sortira plus tard en salle. La chanson accompagnant le film est un triomphe. Il y a participé d'ailleurs Elvis à la création de la chanson. C'est important qu'on sache qu'il a été crédité de certaines chansons alors qu'il est surtout interprète. Et c'est un triomphe absolu, Love Me Tender.
Mais il y a quand même beaucoup de navets au cinéma dans la carrière d'Elvis.
Bah, bien sûr, oui, c'est parce que c'est toujours grâce à Parker. Parker, lui, il avait décidé. Enfin, Elvis rêvait d'être James Dean ou d'être d'être James Dean, d'être cette mouvance un peu comme Marlon Brando. Il voulait être de ce type d'acteur. Et en fait, Parker avait un autre but. C'était Monsieur 25%, touchait 25% des royalties. Et donc, lui, il signait des contrats avec des firmes d'Hollywood qui transformaient Elvis, non pas en acteur, mais en acteur chantant, en singing actor, pour vendre des disques par RCA.
Les curieux, est-ce que vous savez pourquoi on garde en mémoire l'image d'un Elvis Presley avec une veste de cuir, un blouson de cuir? Vous allez voir, c'est un rapport avec Noël. Restez avec nous les curieux, et puis dans la seconde partie de l'émission, on découvrira, on poussera les portes du secrétariat du Père Noël.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Street, that heartbreak hotel.
Si
Denis Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
14h31 sur RTL. Vous savez, ici dans la curiosité, on a une maxime: les gens passionnés sont passionnants. Et c'est le cas de Patrick Mahé, notre invité, qui nous transmet, et on se régale, sa passion pour le King, sa passion pour Elvis Presley. Allez, une dernière petite histoire pour la route, si j'ose dire. L'histoire de son blouson de cuir noir. C'est cette photo que vous avez choisie à la une de votre livre 100 jours avec Elvis. Et ça a à voir avec le Père Noël, allons bon, racontez-nous.
Oui, absolument. D'abord, c'est pas seulement un blouson, c'est une tenue entière qui lui colle à la peau, qu'il a fait faire par un couturier, Bill Belliou, pour le citer.
Sexy en diable.
Extrêmement sexy, qui lui colle à la peau. Et c'est une réponse à une demande express du colonel Parker, le fameux faux colonel et vrai manager, qui, pour un spectacle de la télévision à Noël 68, lui veut lui faire chanter des chants de Noël, genre Mon beau sapin. Et il peut le faire, évidemment, il connaît tout ça.
Il
sait tout chanter. Hein.
Oui, puis c'est un classique. Des chanteurs américains, ils enregistrent tous des chants de Noël.
Il y a quelques temps que Rita Moreno, qu'il a raté West Side Story, il en a marre des bluettes, il en a marre des films comme ça. Il reprend la main. Et donc, aux mecs de la télé, c'est la chaîne NBC, ils disent non, c'est pas possible ça. Moi, je vais pas chanter Mon beau sapin, je vais chanter du rock'n'roll, mais du vrai rock'n'roll, vintage. Et je vais pas m'habiller en Père Noël, je vais m'habiller en cuir noir. Et ils s'habillent tous de cuir noir, et c'est le comeback special de 68 qui a un succès mais énorme en Amérique. C'est de ce jour, d'ailleurs, qu'on date la création, la naissance de l'audimat. C'est là qu'on a pu mesurer le taux d'audience d'un chanteur, d'un artiste.
Patrick Mahé, Elvis Presley, évidemment, a inspiré des rockers du monde entier, et notamment notre Johnny. De quelle manière? Qu'est-ce qu'on retrouve comme symbole, notamment lors des concerts de Johnny?
Deux choses. D'abord, c'est par le cinéma que Johnny a découvert Elvis. Il a dit, moi, je vais être James Dean et Elvis Presley. Un peu un mélange des deux, c'était son rêve. Et deuxièmement, Johnny est extrêmement fidèle à la mémoire d'Elvis. Extrêmement fidèle. On le voit dans tous ses concerts, où il parle de lui. Et quand il a fait le Stade de France, par exemple, il a recréé l'avant-scène avec une sorte de ring dans lequel il interprétait en guitare acoustique dans un concert unplugged.
Un moment hyper intime d'ailleurs, très beau.
Moment intime, les rock'n'roll qui étaient ceux d'Elvis Presley, That's Alright Mama, etc., Heartbreak Hotel et Blue Sweet Shoes. Don't step on my blue sweet shoes.
Et on en profite pour saluer Patrick. Johnny Hallyday. Merci beaucoup Patrick Mahé. 100 jours avec Elvis aux éditions Cherche Midi. Encore plein d'histoires et de très très belles photos à découvrir dans votre livre. À bientôt, micro de la curiosité.
Vous écoutez RTL.